Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
We Love Cinéma par BNP Paribas vous présente We Love TFTC.
Call it. Call it, yes. For what? Just call it.
Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. À mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Comment allez-vous?
Ouais,
ça va
ouais. Et toi?
Bah, c'est toujours un plaisir hein, maintenant que la cadence est retrouvée pour le podcast. Aujourd'hui, nous recevons deux invités, Amaury et Quentin. Comment allez-vous?
Bah écoute, ça va très bien. Ça va très très bien. Merci beaucoup pour l'invitation.
Eh bien écoute, de rien. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas, Quentin?
Alors, je m'appelle effectivement Quentin Thiriot, j'ai 34 ans. Je suis acteur, auteur et réalisateur et j'ai fait énormément de choses avec la personne qui est à côté de moi, Amaury. On a notamment une chaîne qui s'appelle Amaury et Quentin sur YouTube.
Du coup, tu dis la même chose ou comment ça se passe, Amaury?
Bah écoutez, non, c'est très bien. Non, je suis comédien aussi. Voilà, j'ai auteur aussi. Effectivement, on a fait pas mal de choses sur le logiciel YouTube pour les aficionados des internets. Et voilà. Ouais, non, c'est bien. C'est
et t'as un podcast apparemment.
Et j'ai un podcast effectivement depuis peu qui s'appelle Futsal tous les mardis. Voilà.
Et c'est un jeu de mots, il me semble.
C'est effectivement. Tu es tu es connaisseur.
Et oui, c'est un foot qui est sale. C'est pas le futsal.
Exactement,
où,
oui. Exactement. Et je fais ça avec Fabien Prade. Et on s'amuse bien. C'est marrant. C'est cool.
Très bien. Dans cet épisode, nous allons parler d'un film qui a marqué les esprits à la fin des années 2000. No Country for Old Men. Sorti en 2007 et réalisé par les frères Cohen, ce film raconte l'histoire d'un homme qui découvre un jour une scène de crime sur laquelle il récupère une mallette contenant 2 millions de dollars. Mais forcément, cette mallette appartient à quelqu'un et un tueur à gages psychopathe est engagé pour se lancer à sa poursuite. De retour dans l'état du Texas, 23 ans après y avoir tourné leur premier film, les frères Cohen réalisent là une œuvre adaptée d'un roman de Cormac McCarthy, celui-là même à qui l'on doit également La Route. No Country for Old Men a obtenu 4 Oscars et pas des moindres, celui du meilleur film, celui des meilleurs réalisateurs, l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Javier Bardem et enfin, forcément, celui du meilleur scénario adapté. Alors messieurs, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film? Et je vais commencer avec Amaury, tiens.
Alors, moi c'était, à l'époque j'étais à côté de Saint-Étienne et il y avait un petit truc pour louer des DVD à l'époque. Et c'était un peu la révolution dans cet endroit, parce qu'il n'y avait pas d'autres distractions.
Il y a toujours ce truc sur Saint-Étienne qui revient où apparemment c'est la pire ville.
C'est une ville pas simple.
Ok, d'accord.
C'est une ville pas
très simple.
Et
pourquoi c'est une ville pas simple? C'est la déprime là-bas? Parce qu'il y a forcément des Stéphanois qui nous écoutent, qu'on salue.
Et déjà, je les embrasse, ça veut dire qu'ils ont internet, ou en tout cas, ils ont une petite connexion 4G, et ça me fait plaisir, c'est bien les gars, lâchez rien. Mais non, parce qu'il n'y avait pas, à l'époque, donc de 2008, parce que moi je l'ai vu en 2008, c'était pas la grosse ambiance, si tu veux, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et donc j'étais avec ma copine de l'époque, on ne savait pas trop quoi regarder. Et je sais pas, je me rappelle juste de la tête de Javier Bardem sur l'écran. J'ai vu cette tête avec une coupe à la Mireille Mathieu incroyable. Je me suis dit, ok, il faut que je voie ce film. Et j'ai pas été déçu. Donc ouais, c'est un premier Netflix and chill sans le Netflix.
Très bien. Amaury, ton premier souvenir de No Country?
Il vient de le dire, mais si tu veux mon avis, Quentin.
Attends, y a pas de problème.
C'est pas grave.
Il se peut que je confonde.
J'étais
deux,
à Saint-Étienne.
Parce que j'allais re-répondre. En fait, j'étais dans une petite ville et tout, et donc il n'y a pas grand chose à faire.
Moi, j'étais dans un autre délire aussi. J'étais à Nancy, j'étais étudiant. Et j'avais mes habitudes dans un petit cinéma qui s'appelait le Caméo Saint-Sébastien.
Oh, le cinéphile.
Oh oui. Et du coup, j'étais allé voir ce film en salle, parce que j'aimais bien effectivement les frères Cohen. Mais je ne savais pas du tout de quoi parlait le film. Et j'ai été aussi agréablement surpris. Et j'ai pris une petite clacasse en sortant de la salle du Caméo.
Ouais, c'est ce que je voulais dire après, mais j'ai l'impression que ce film, il a aussi... c'est aussi ce que j'appelle un film bouche à oreille, parce que vraiment, il y a un truc où je me souviens, quand je l'ai vu en 2008, tout le monde parlait de ce film, tout le monde disait, faut voir No Country for All Men, et c'est un film qui n'était pas forcément attendu, c'était attendu comme un film des frères Coen. Donc c'est toujours un petit événement, mais il n'y avait pas non plus un truc vraiment grand public, et le film a cartonné parce qu'il y a eu un vrai bouche à oreille. Toi, Guillaume, ton premier souvenir du film ?
Moi, je l'ai vu en salle aussi. Pareil, c'était la grosse claque.
Oui, on l'a tous vu en salle.
On l'a tous vu en salle, ouais, à fond. Et souvenir du film, bah évidemment, ouais, j'étais là, j'étais un peu sous le choc de ce que je venais de voir. Je me suis juste dit, je crois que c'était un des premiers films où je me suis dit, ah, c'est marrant, y a pas vraiment début, développement, conclusion. Il n'y a pas vraiment de fin. Il y avait un truc où, genre, je trouve que c'est la première fois que la narration, elle m'a interpellé dans un film. Une des premières fois, il me semble, où je me suis dit, ah tiens, on peut faire autrement un peu. C'est bizarre cette fin, ça se finit pas comme j'aurais prévu, etc., etc. Et aussi, je crois que c'est la première fois que j'identifiais Javier Bardem parce que il a fait évidemment plein de trucs avant, mais je le connais, enfin, j'avais jamais vraiment identifié en tant que, qu'acteur. Et évidemment, quelle tarte.
Ouais, justement, je voulais dire aussi après, mais Javier Bardem, c'est vraiment le film qui lui permet d'être connu du grand public, parce que avant ça, il a un petit rôle dans Collatéral, mais vraiment vite fait, les gens l'associent pas. Il a joué avec des, bah forcément avec les grands réalisateurs espagnols comme Amenábar, etc. avant, mais il est vraiment identifié acteur espagnol, et là, le public le découvre, et avec un rôle vraiment inoubliable. Aurélien, ton premier souvenir ?
Pareil, cinéma, pareil, bah, Frère Coen, j'étais un peu fan. Mais je m'attendais pas à un film aussi important, quoi. Et c'était la première fois qu'on pouvait parler avec des gens, des frères Coen, tu vois, parce que les gens, tout le monde avait vu ce film, en fait. Donc t'es là, genre, ah ouais.
Ouais, surtout que juste avant, je crois qu'il y avait Lady Killers, c'est ça. Et
ouais,
ça avait pas, et ça avait pas eu un retentissement foufou, je crois.
Ouais, c'était un peu raté.
Mais en plus, la critique l'avait défoncé déjà, de toute façon, donc le film était condamné.
Ouais.
Alors moi, j'ai une petite tendresse pour ce film.
Est-ce que tu as vu l'original ?
Non.
Voilà.
C'est peut-être pour ça.
Bah, ça peut jouer. Ah moi, j'ai vu l'original et après j'ai vu celui-là et je me suis dit, ah non, quand même, ils ont foiré les frères.
Qui a fait l'original?
C'est un film anglais des années 50, donc j'ai pas envie de me merde, tenter, mais il y a toutes les gueules du cinéma des années 50, il y a Guinness et tout, il y a vraiment des tronches.
Ah ouais,
c'est vraiment le même film, entièrement refait.
Ouais,
sauf qu'ils
ça.
Ont foutu, comment il s'appelle?
Tom Hanks,
ouais, voilà, en mode vraiment. Ah ouais. Colonel Sanders, mais en fait, sinon, c'est vraiment exactement le même film. Mais en fait, il est plus sympa dans les années 50 que là, où il fait un peu plus rondelet.
Moi, j'avais vu le film au ciné et en fait, je me souviens que je m'étais dit... Enfin, je me souviens avoir eu le sentiment de voir un classique vraiment instantané, quoi. Et tu regardes un film et tu dis, ok, je sens que ce film va me marquer. Et puis aussi, ce qui m'a marqué, c'est que c'était un film qu'entremêlait plein de styles. Il y avait un peu le western, le road movie, le film noir, le thriller, et même la comédie un peu, parce qu'il y a un peu d'humour noir.
Ouais, parce que Javier Bardem, c'est le méchant le plus cool en vrai. Il est très drôle.
Ouais. C'est bizarre.
Il est chelou. Non, c'est vrai qu'il y a plusieurs tons dans ce film.
Il y en a plusieurs, et puis il y a aussi et comme une allégorie de la violence aux États-Unis, etc. Il y a tous ces thèmes qui s'entremêlent, et puis au final, ça fait un film magistral. Et puis, comme on le disait juste avant, on n'attendait pas vraiment. Moi, je me souviens que après être sorti de la salle, je me suis dit, ok, c'est un film des frères Coen, ça. Tu sais, t'es pas habitué, ils avaient tellement un style, même avec Fargo et tout, qui ressemble plus à No Country for All Men qu'un film comme Lady Killers, par exemple. Mais No Country for All Men, t'avais l'impression de voir à la limite un film, pas d'action, mais un film qui ressemble pas aux frères Coen, forcément.
Qui se sont réinventés un petit peu, il y avait un côté peut-être un petit peu moins parodique, et il y avait tout ce truc, je trouve, de la fatalité, tu vois, qui reprennent un peu dans Serious Man juste après, où il y a un délire où t'as des gens qui sont un peu écrasés par un destin, tu vois, avec tout ce truc de la pièce, est-ce que tu vas mourir ou pas, c'est pas toi qui vas choisir, c'est le destin.
Elle est incroyable, ce cette scène annoncée.
Ouais, grave, et tout ce truc est hyper je trouve que c'est là où il se renouvelle et qu'à mon avis il y a un nouveau public qui s'intéresse aux frères Coen, qui est pas forcément celui d'avant, je trouve.
Un truc relou avec ce film, je sais pas si vous ça vous a fait ça, mais c'était le titre.
Ouais.
Parce que à l'époque, tu sais, il y avait pas de borne automatique. Il fallait aller à la caisse et dire je veux une place pour. Et je me rappelle pendant le trajet, je me suis dit attends, comment je vais être en galère. Je vais dire est-ce que je fais un accent un peu pourri, genre No Country for All Men, j'essaie de le faire. Ou est-ce que je dis No Country for Old Men. Je crois que finalement j'ai dit une place pour le film des frères Coen. Ça j'étais tranquille.
Surtout que moi je le confondais à une époque avec There Will Be Blood. Et souvent, je confondais les deux, donc j'étais un peu, je m'embrouillais un petit peu. Donc il y a des gars qui me disaient, ouais, enfin le truc, tu sais, à un moment donné, la scène où il y a l'histoire du pétrole, machin, tu sais, ils découvrent le gisement. Je dis, oh putain, mais attendez, j'ai pas vu ce film-là. Alors ok, à Saint-Etienne, il y a des films piratés des frères Coen où des mecs doivent retourner des scènes. Je comprenais plus rien.
Et bah toi, tu vas pas être déçu à la fin de ce podcast parce que tu verras.
On reparlera de There Will Be Blood.
Et j'ai vu ça d'ailleurs, petite mauvaise nouvelle, en parlant de ce film. Hier, apparemment, on a appris le décès d'une des actrices de No Country for All Men.
C'est pas l'esprit du podcast.
D'accord. Bon, bah écoutez, on respecte pas sa mémoire alors. Moi, je voulais quand même faire un petit truc pour elle.
Je ne veux aucun hype. Bon. Non, quelle actrice
C'est. Alors, je n'ai. Ah non, je l'ai pas, Papkin.
Est-ce que ta tristesse est infinie suite à...
Bah, elle est tellement infinie que je n'arrive même plus à sortir son nom. T'imagines, tant les sanglots me montent.
Non, parce qu'en général, c'est le genre de story qu'on fait après tristesse infinie quand quelqu'un meurt comme ça.
Ouais, non, non, c'est.
Elle est dans la pièce, je pense.
Non, et puis en plus, tout à l'heure, on parlait de Javier Bardem, mais ce que je trouve fou dans ce film, c'est qu'il a permis à un grand acteur comme Javier Bardem d'être reconnu internationalement. Mais pas seulement, aussi Josh Brolin, parce que Josh Brolin, on le connaissait pour les Goonies avant. Après, il avait eu un petit rôle vite fait dans La Planète Terreur, si je ne dis pas de bêtises. Mais on ne l'associait pas à un acteur qui compte. On le voyait vraiment comme un jeune qui avait joué dans les Goonies. Et finalement, il n'y a aucun qui a vraiment percé dans les Goonies. Il y a Sean Astin qui a joué dans Seigneur des Anneaux. Mais sinon, à part ça, il n'a pas vraiment compercé. Et lui, finalement, c'est celui qui s'en sort le mieux des Goonies. Ouais. Et dans ce film, il est vraiment... très très bon.
Moi c'est là qu'il m'a choqué en vrai. Moi je le connaissais pas au départ. Ouais. Vraiment, et je trouve que c'est lui le personnage. En plus, il y a un moment où tu le suis vraiment, il y a presque pas de dialogue.
Il a un vrai charisme. Il a un vrai charisme. Et surtout, c'est le film qui lui a permis de se lancer parce qu'après, dans les 2-3 années qui suivent, il enchaîne les gros films, tout comme d'ailleurs Javier Bardem qui enchaîne sur Vicky Cristina Barcelona.
Très différent, un physique totalement différent. Moi quand j'ai vu, j'ai dit, mais attendez, c'est le même acteur qui joue dans Vicky Cristina Barcelona, c'est incroyable.
Tu sens que c'est le genre de mec, quand il rentre dans une pièce, il y a un charisme tout de suite. Qui s'impose dans la
classe. Clairement.
Tu le sens.
Un peu comme moi, non genre.
Oui, c'est vrai. J'allais y venir.
Vraiment, tu m'as ôté les mots de la bouche.
On y pensait justement.
Ah, vous y pensiez
C'était ma transition.
Ah, bah, désolé, excuse-moi.
Très bien. S'il y a bien un personnage qui a un charisme autour de cette table, c'est Guillaume Brouze. C'était ma chronique d'après.
C'est fou, c'est incroyable.
Non, ce que j'allais dire, c'est. En général, j'enchaîne sur votre scène préférée, mais c'est vrai qu'on en parlait. S'il y a vraiment une scène qui ressort de ce film, c'est la fameuse scène avec le pompiste et la pièce. Ouais, mais est-ce qu'à part ça, il y a une scène qui vous a marqué, Guillaume, toi qui l'as revu hier soir?
Eh ben, figure-toi que même avant de le revoir, la scène qui m'avait marqué, c'était plus quand Josh Brolin il est dans l'hôtel.
Ah ouais.
Et que l'autre arrive dans le couloir et on voit ses pieds sous la lumière de la porte. Mmh. Et tout est jeu de silence et de cliquetis, de flingues et j'ai trouvé ça exceptionnellement haletant. Et après, la scène qui s'ensuit, pareil, où il se tire dessus dans la rue, etc. Mais ce qui est fou, en fait, c'est que là, on en parlait, mais en fait, en le revoyant hier, je me dis. Le succès qu'il a eu, il est incroyable parce que c'est un film dur en fait. Mmh. Il est dur de ouf, surtout
puis long
sur la narration,
ouais, y a
sur les silences, il n'y a pas de musique, c'est archi violent.
Ouais, c'est hyper
c'est archi dur.
Et à ce qui paraît, le livre est encore plus violent et sanglant, vraiment.
Mais je pense que je parlerai de cette scène dans l'hôtel, là. Je trouvais folle.
Quentin, il y a une scène que t'as marqué, toi?
Eh ben, j'allais exactement raconter la même scène.
Okay.
Et je me rappelais de cette scène. Je me rappelais surtout du bol de lait du chat. On voit le chat juste quand il entre qui prend son lait et après il revient le bol il est complètement renversé et oui effectivement toute la mise en scène qu'il y a quand il est dans la chambre qui comprend qu'il y a le bip dans la valise et qui se dit ah ok en fait je comprends pourquoi le gars m'a retrouvé qu'il est là avec son fusil qu'il éteint la lumière et tout ce truc là la mise en scène est incroyable.
Ouais. Amaury.
Alors moi c'est la scène où il vient de se faire Javier Bardem vient de se faire shooter dans la cuisse. Et si tu veux, il va à la pharmacie.
Ah ouais, c'est culte.
Et elle est géniale cette scène. Donc il prend son alcool à 90 machin. Et après il revient dans son petit motel.
Mais ce qui est culte aussi au passage, c'est que il crée une explosion de voiture.
Mais c'est ça justement.
Et il marche tranquille dans la pharmacie.
C'est ça que j'adore ce gars, c'est qu'il ne ressent. Enfin, c'est un psychopathe incroyable. C'est-à-dire, il ne ressent rien. Le mec, il met sa mèche dans la voiture. Ça explose, tout le monde est en panique, il paye pas, il se casse. Et là, tu le vois, j'avais trouvé ça super bien fait quand il fait sa piqûre dans le bain. Enfin, c'était pareil, il parle pas, quoi. Il y a rien. Et ça m'avait captivé vraiment.
Aurélien. Ce moment.
Ouais, bah, je pense que c'est un peu un mélange de tout ça, les scènes un peu muettes où il se passe plein de trucs, en fait, énormément d'intensité et quasiment pas de paroles, pas de musique et tout. Assez bizarre d'ailleurs le traitement du son et tout. Mais en fait, je pense qu'on parle jamais de Tommy Lee Jones dans ce film. On a l'impression qu'il sert à rien, toutes ces scènes, elles sont en mode genre les spectateurs. Tu sais, il regarde le journal, il fait oh merde, encore qu'ils sont morts.
Ouais.
Oh,
mais surtout,
c'est vraiment une vie de merde.
Il est désabusé.
Mais surtout, t'as l'impression d'avoir vu énormément de films avec Tommy Lee Jones dans ce rôle du flic texan. Ouais. J'ai l'impression qu'on a eu beaucoup. Et d'ailleurs, Je sais qu'avant le film, il avait hésité à le faire parce qu'il s'était dit, bon, des rôles de Texan flic, j'en ai fait 20 000. Mais en fait, il voulait, ce qui l'a convaincu, c'est que c'est de jouer dans un film d'une adaptation de Cormac McCarthy.
Ouais, c'est ça. C'est ce
qu'il en a refait après encore.
C'est ce qu'il a chauffé.
Je crois que ça l'a refait. On lui a redit, genre, t'étais trop bien dans ce film. Arrêtez, c'est pas possible.
Moi, alors, bien évidemment, toutes les scènes que vous avez citées, j'aurais pu les citer parce qu'elles sont vraiment marquantes. Mais moi, il y avait un truc aussi qui m'avait marqué quand je l'avais vu. C'est sa façon qu'il avait d'ouvrir les portes avec sa fameuse arme qui est. Un pistolet d'abattage avec une bouteille d'air comprimé.
C'est incroyable.
Et je me souviens que je me disais, putain, en fait, il ouvre les portes avec ça, mais si on se le prend dans la gueule, c'est chaud, quoi. Et en fait, ça annonce la violence du gars, en fait, tu vois. Tu sais, c'est comme une manière de toquer à la porte, sauf que lui, il toque avec son pistolet d'abattage.
Il le fait au tout début, il tire dans la tête d'un mec pour lui prendre sa caisse au tout début.
Ouais.
Et c'est archi vénère.
Mais il le prend, Josh Brolin, dans le plexus, justement, quand il est dans la chambre d'hôtel.
Ouais, bien sûr.
Il se prend la serrure.
Ouais. Justement, en parlant de chambre d'hôtel, je me suis dit ça hier en regardant le film. Genre, il y a vraiment très peu de respect pour le personnel hôtelier. Genre, absolument toutes les scènes dans les hôtels, bon, mais ils défoncent les chambres.
Il y a juste un tout petit moment, moi, qui m'avait fait vraiment beaucoup rire. C'est insignifiant, mais Javier Bardem, il vient de tuer Woody Harrelson, son personnage, et il est au téléphone avec Brolin, et tu vois le sang qui arrive, et hop, il met juste ses pieds sur la table basse,
et le
sang continue de couler. J'ai trouvé ça très, très drôle.
Alors Guillaume, j'en parlais à l'instant, le personnage de Javier Bardem possède dans ce film une arme qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma, un pistolet d'abattage associé à une truc d'air,
tout à fait,
air comprimé, et des armes bizarres dans les films. Bah, il y en a eu quelques-unes.
Et en effet, je vous propose un tour d'horizon des armes singulières dans les films, ça vous dit ? Alors on n'a qu'à commencer avec les armes directement incrustées dans le corps. Avec par exemple la jambe mitraillette de Rose McGowan dans le film
Planète Terra.
Bien sûr.
Planète Terra, bien joué en 1997. Le personnage de Gogo Danseuse de Sherry Darling perd une jambe, dévorée par des zombies, d'abord remplacée par un pied de chaise par son petit ami qui finalement finira par lui fixer une énorme mitraillette à la place, qu'elle parviendra à utiliser sans appuyer sur la gâchette. Et c'est ce qui en fait une des meilleures armes du cinéma, puisqu'au final, ça n'a aucun sens, de toute façon.
T'es en train de nous dire que c'est badass.
C'est un peu badass, non?
Ouais, c'est ça que tu me dis.
C'est une arme badass quand même. Même principe dans Evil Dead 2 de Sam Raimi, où la main possédée de H. Williams tente de le tuer. Il est alors obligé de la couper pour ensuite se fixer une tronçonneuse au moignon. On pourra aussi parler du moignon de Candyman, remplacé par un crochet. Mais évoquons de rechef les armes dans les sous-vêtements, si vous le voulez bien. Les sous-vêtements. Comme par exemple le soutien-gorge pistolet, apparu en 1965 dans le film La dixième victime.
Ah oui.
Tu l'as vu ?
Oui.
Eh ben bravo. Film de science-fiction avec Marcello Mastroianni, où pour canaliser l'agressivité de la population dans un monde où les guerres ont disparu, les agresseurs et les victimes sont choisis par un ordinateur. Bah, figure-toi que ça m'a botté, je l'ai jamais vu, ça a l'air pas mal.
C'est n'importe quoi, c'est hyper pop et tout.
Okay.
C'est Hunger Games, mais fou.
Italien.
Voilà.
Ah, ok.
Années 60.
Intéressant.
Et quoi de plus discret que le soutien-gorge pistolet ? Eh bien, le slip pistolet de Sex Machine, Tom Savini dans Une nuit en enfer. Est-ce que vous vous souvenez de cette séquence?
Ouais, incroyable.
Et en plus, je crois que les testicules sont remplacés par des
barillets.
Des barillets.
Qui roulent sur le bois. Légendaire.
Séquence iconique dans laquelle il dissuade son agresseur armé d'un couteau simplement en lui montrant son slip, donc. Autre film avec une arme cachée dans les vêtements, et on s'en souvient un peu moins, le couteau chaussure du Joker dans The Dark Knight.
Dans le cocktail là, quand il vient le chercher là.
Il a juste appuyé sur son pied et il fait sortir un couteau.
Mais d'ailleurs, pour rester sur The Dark Knight, t'as encore un truc sur The Dark Knight?
Non, vas-y, je t'en prie.
Parce qu'il tue avec un crayon à papier à un moment donné.
Ouais, exactement.
Il utilise plein d'armes.
Il utilise plein d'armes
avec le tourne magie là.
L'arme étrange.
Et exactement. Simple mais efficace. Et évidemment, parmi les armes les plus iconiques du cinéma, on pourra difficilement ne pas parler du gant de Freddy, où tous les doigts sont remplacés par des lames. Même si au final, au fil de la franchise, il ne s'en sert plus exclusivement pour trancher la gorge de ses victimes, mais que les morts sont de plus en plus inventives, comme dans Freddy l'ultime cauchemar, où après avoir remplacé la prothèse auditive du petit Carlos par une prothèse monstrueuse à la Freddy archi-amplifiée, il lui inflige la pire torture en faisant grincer ses griffes sur un tableau noir, jusqu'à ce que... la tête de Carlos explose.
Bah oui, tout simplement.
Non, c'est normal. Cool, ces films, parce que c'est-à-dire que les auteurs, ils devaient s'amuser à imaginer les morts les plus folles, en fait.
Surtout dans Freddy, quoi. Ouais. Freddy, quand t'es dans le monde du rêve, il est là, bon allez, toi, on va t'incruster dans un jeu vidéo. Et après, il y a une scène quand même, dans Dream Warriors, je crois, où il y a un des petits qui est incrusté dans un jeu vidéo, et après, il le fait sortir du jeu vidéo, mais il se déplace comme dans le jeu vidéo, donc il fait comme ça. Et en fait, il le fait rebondir contre le plafond. Et c'est Freddy qui le guide avec
ça. Il y a pas un truc avec des boulettes de viande aussi, à un moment donné, dans une pizza ou un
si, dans une
ça.
Pizza. Et il y a un des films où il sert un dîner complètement affreux avec ses vieilles griffes et tout. Enfin bref, ils font tout et n'importe avec Freddy.
C'est quoi l'histoire des boulettes de viande?
Il transforme la victime en boulettes de viande dans une pizza, je crois.
Ouais, en fait elles sont. Ouais. En fait non, les boulettes, c'est la tête de Freddy.
Oui voilà.
Ah ok.
Ils sont dans la pizza. Alors, Rayon Jardin, on optera pour la tronçonneuse de Massacre à la tronçonneuse, ah, arme si iconique.
La classique.
Et pièce maîtresse du cinéma d'horreur, tellement de pièce maîtresse que c'est le titre de la franchise, évidemment. Il n'y a pas beaucoup de films où c'est carrément l'arme du crime qui est le titre.
L'objet.
Ou encore la tondeuse à gazon, dans quel film?
Je sais, Brendan.
Toi, tu le sais, mais oui, parce que tu l'as vu il n'y a pas longtemps. T'as fait un top il n'y a pas longtemps.
C'est vrai.
Dans Brendan de Peter Jackson en 1992, où le personnage de Lionel s'en sert pour décimer des zombies.
Rayon plus des singes, des rats singes, encore pire.
Des rats singes.
Ouais, c'est des rats singes zombies, c'est un délire. Ah
ouais. Rayon plus classique, mais tout aussi culte. Le sabre de Uma Thurman dans Kill Bill, les sabres laser de Star Wars, les proton packs de Ghostbusters. Est-ce que le foie d'Indiana Jones, ça rentre dans les armes?
Bah oui,
bien sûr.
Oui. Oui. Bah tu veux que je te mette un coup de fouet pour voir?
Bon, bah d'accord.
Tu pas les gens.
Tu pas vraiment les gens avec, tu vois.
Ah, mais il est désarmé.
Et si je te mets 100 coups de fouet, il y a des chances que tu crèves. Je m'y connais beaucoup.
Dites-nous sur Twitter si vous voulez qu'on teste. Qu'est-ce qu'il faut dire à ça?
Nouveau challenge.
Le fouet d'Indiana Jones sont encore absolument toutes les armes des super-héros Marvel et DC. Mais on finira par la plus singulière et folle de toutes les armes, le Toon Gun de Eddie Valiant dans Roger Rabbit, où absolument toutes les balles sont des petits cow-boys, et quelqu'un autour de cette table le possède chez lui.
Oui, bien sûr. Alors, je possède donc le fameux Toon Gun, on s'en souvient, le Toon Gun d'Eddie Valiant dans Roger Rabbit. Et il y a... Moi, je collectionne pas mal de trucs liés au ciné.
C'est pas vrai.
Exactement.
Ah ouais.
Et donc, depuis des années, en fait, je cherche ce pistolet, parce que je sais qu'il existe, mais en très faible quantité. Et un jour, il y a un abonné, peut-être qu'il nous écoute, et s'il nous écoute, je le salue chaleureusement, qui m'a envoyé un message pour me dire, écoute, voilà, je l'ai, je m'en sers pas vraiment, je vais déménager, maintenant j'ai une famille, etc., machin et tout. Je veux qu'il te revienne parce que t'as une belle collection.
Oh là 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 là,
c'est
super cet abonné.
Et c'est vraiment une belle pièce, en fait. C'est pas un truc qui coûte 20 euros, quoi, tu vois. Et ouais, il allait à un concert à la salle Playel, on s'est donné rendez-vous. Je l'ai invité à manger avec sa meuf, etc. On a discuté, c'était cool. Et puis je suis reparti avec ce gun que j'ai. Et c'est une de mes plus belles pièces maintenant.
C'est un bravo.
Incroyable.
Je suis ravi.
La meuf devait être ravie, tu sais, elle devait être là. Elle devait vous voir tous les deux en train de parler du pistolet, en train de faire. Putain, vive.
Fais voir le Toon Gun.
Tu vois, quand t'appuies là et tout, ça fait des trucs incroyables.
Ouais, on
dit enfin le Toon Gun par de chez moi.
C'est ça.
C'est bon, JB, l'addition et on se casse. Allez, merci. Et donc, j'avais une question pour clôturer cette chronique parmi toutes les armes du cinéma.
Chronique au demeurant.
Oh, ben merci. Parmi toutes les armes du cinéma, est-ce que vous en avez une que vous aimeriez tester?
J'en rajouterai une à ta chronique, qui est le mini gun de Men in Black qui finalement est le gun le plus violent.
Incroyable.
Moi j'aurais ajouté
c'est le meilleur.
Oui, j'aurais peut-être ajouté même un personnage qui tue, qui est un pneu, c'est Rubber.
Est-ce que c'est une arme
Bonne question.
C'est un psychopathe.
En tout cas, c'est un mélange d'armes, ouais.
C'est un mélange d'armes et de.
C'est quand même un pneu qui peut te tuer. Juste par la pensée.
C'était quoi ta question, Guillaume?
Je disais, dans les armes du cinéma, est-ce qu'il y en a une que vous verriez bien? Par exemple, bon, t'es en galère là dans la rue, il y a quelqu'un qui arrive pour t'agresser. Est-ce que tu
je vais te le dire.
Je te donne une arme du cinéma, n'importe laquelle.
Je vais la prendre. C'est la sulfateuse de Predator ou Terminator 2.
Ouais,
là, la sulfateuse. La sulfateuse. Et toi, Guillaume, c'est quoi?
Bonne question, je réfléchissais.
Mais c'est ta question en même temps.
Ouais, bonne question. Puis tout dépend ton embrouille, tu vois, je pense.
La sulfateuse.
Ah ouais, carrément.
Tu vas juste te bousculer dans la rue, JB.
Moi, je pense que je prends le chapeau de Hot Job là. T'as un chapeau tranquille, t'as un mec qui te fait chier, paf, tu le prends et pfiou, bam.
Allez. Ouais, ça c'est stylé.
Coup là, ouais, paf.
Ouais, d'accord.
Dans la tête, voilà.
Quentin,
j'ai toujours bien aimé les films avec des épées, moi. Je sais pas, je suis assez classique.
L'épée de Willow.
L'épée de Willow.
Sinon, il y a le grand flingue de Dirty Harry, Clint Eastwood.
C'est
incroyable. Son gros magnum.
Franchement, je prendrais le fusil à pompe de Terminator.
Ah, pas mal.
Ouais, à une main, là.
Je nous conseille d'avoir ces conversations avec des meufs en date.
Moi, je prendrais le gros fusil à pompe. T'as déjà vu un Toon Gun parce que j'en ai à la maison.
Les meufs sont ravis de ces conversations en date.
Le gros fusil à pompe de Terminator.
Eh bien, c'était super.
L'épée de Conan.
C'était super. Oui, on n'a pas parlé des épées, c'est vrai, les épées.
Conan le barbare, belle épée.
Bah, belle épée.
Ouais, oui, l'épée de Conan. La fameuse.
L'épée de Zorro.
Ouais, mais l'épée de Zorro.
Excuse-moi.
Non, mais après, il y a aussi les armes des tortues ninja, par exemple.
Ah oui. Est-ce qu'on peut nous citer les quatre armes, là, Guillaume, tout de suite, les quatre armes des tortues ninja?
Le bâton, le sabre,
les
comment ça s'appelle?
Les fourchettes, là.
Les fourchettes. Les nunchakus, tout le monde.
Les fourchettes.
Oui, les c'est des katanas. Les katanas, c'est pas les étoiles.
Ça, c'est shuriken.
Des katanas.
Est-ce que tu peux nous raconter, parce que tu possèdes un très beau truc des Tortues Ninja, est-ce que tu peux nous raconter?
Bah, bien sûr, je possède
une très belle pièce,
une boîte de pizza dédicacée par le créateur des Tortues Ninja qui écrit Kowabunga, Guillaume.
Mais attends, mais c'est génial.
C'est beau
ça.
Ou pas ça?
Bah oui, c'est magnifique plaisir. Ça.
Ouais, merci.
Je tenais à le dire parce que c'est beau.
Chacun ses petites pièces.
Bah oui, bien sûr. C'est ta plus belle pièce ou pas? Non, c'est pas ta plus belle pièce ça, si.
Bah quand même, elle est un peu unique.
C'est ta plus belle pièce.
C'est culte ça. Hein.
Bah, c'est dur de se. Je crois que. Bah si elle est signée, a priori, c'est quand même une belle pièce.
C'est vrai. Est-ce que vous avez. C'est quoi votre plus belle pièce à vous?
Moi, c'est la cuisine parce que.
Vraiment sans blague. Moi, il n'y a vraiment pas de vanne. J'ai un DVD de Pour toi public 2 dédicacé par Franck Dubosc.
Ah, c'est pas mal.
C'est bien ça.
Qui me met Amaury, t'es cool. Et sa signature. Donc, Franck, si tu nous écoutes, bah, merci beaucoup.
Aurélien,
une signature qui a l'air spirale.
C'est une signature comme ça. Tac, tac, tac. Okay. Ouais, assez graphique.
Et toi, Aurélien, plus belle pièce?
Ma plus belle pièce, je sais pas. J'ai l'almanach de Retour vers le futur.
Ouais, pas mal.
Ah, stylé.
J'aime bien ça. Je le regarde.
Est-ce que t'as l'emballage qui va avec, là, un peu gris? Non, t'as pas ça.
Le sac plastique.
J'ai pas le sac plastique. Par contre, j'ai le ticket de caisse.
Ah, c'est bien
qui
ça.
Est transparent avec marqué Blast from the Future.
Ah, stylé. Pas mal de trucs de Retour vers le futur.
Pas mal de trucs de Retour vers le futur. Et notamment, je pense à une très belle pièce qui est chez moi, mais qui n'est pas vraiment à moi, puisque c'est à ma compagne. Et bien, figurez-vous qu'elle a l'affiche de Red is Dead.
Oh
qui n'est pas un film, qui n'est pas un film,
c'est un
faux film, ouais.
Offert par Alain Chabat sur le tournage de Santa Claus, parce qu'il a joué dedans.
Mais non.
Et dédicacé par Alain Chabat.
C'est beau ça.
Ah, ça c'est très
belle pièce.
Non, ça c'est très très lourd.
Ça c'est très très lourd ça.
Ouais, ça c'est beau ça.
Sur l'affiche, il y a la fossile et tout là.
Ouais.
Ah, exactement. Tellement stylé ça.
Ah ouais. Encadré et tout. Bon, respect.
Oui, oui,
c'est beau. Superbe.
Dites-moi les gars.
Salut.
Alors, est-ce que vous savez quel est le titre québécois de No Country for Old Men?
Bah, c'est le titre en français.
Pas de pays pour les vieux.
Oui, c'est ça, pas de pays pour les vieux.
Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme. C'est le titre québécois. Alors, j'ai longtemps repoussé ce moment, mais aujourd'hui, j'ai craqué. Je vais vous faire un quiz titre québécois.
Ben oui,
très bien. Le principe est simple, je vous donne un titre et vous devez deviner le film. Déjà, avant de commencer, une imitation de l'accent québécois, on commence avec Guillaume.
Ah putain, c'est dur.
Attends, j'ai pas. Laisse aller le charisme
ouais,
là.
Il faut y aller, c'est maintenant.
Tabernacle.
Il était, en fait, c'est un expat.
Incroyable. En fait, Guillaume, c'était une super imitation que t'as fait.
Oh, Amaury.
Je vais en magasin acheter des disques.
Oh, c'est beau, c'est pas mal.
Chris. Simple. Vas-y, grosse imitation.
Bah, voyons, ça n'a pas d'allure cette affaire là.
Vous avez vécu là-bas,
là, dans le fond, je pas ta
main. Bien sûr, bien joué. C'est du côté d'Amaury Quentin qu'on a les meilleurs. Très bien, parfait. Ok, donc très simple, il y en a 15, ça va aller très très vite.
Allez.
Parce que c'est assez simple quand même. Les points, je vais demander à Ninon et Timothée qui nous accompagnent d'être mes arbitres un peu, parce que parfois je sais que ça. Hein,
ça triche.
On est comme ça ici.
Ça pinaille parfois.
Ok.
Donc si vous pouvez m'aider, vous êtes ma VAR.
Voilà.
Vous serez ma VAR.
Je compte sur toi.
Ouais, je vois Guillaume qui sous-doit.
Parce qu'à chaque fois, il y a l'écran devant, on ne voit pas.
Oui, c'est vrai.
C'est pour ça qu'il vient se coller à moi, bizarrement.
Comme
ça.
Oui, parce que là, dans la, vous ne voyez pas, mais dans la disposition, Guillaume est tout au fond et il est caché par l'écran. Très bien, c'est parti. Attention, ça va aller très vite.
Oui.
Premier film. Bagarreur de rue.
Street Fighter.
Oh, c'est Guillaume.
J'en étais sûr qu'il allait sortir celui-là.
Bagarreur de rue.
Bagarreur de rue. VHS version canadienne. C'est pour ça que je
sais. Bagarreur de rue.
Il y a une tension là aussi, là, d'un coup.
Très bien.
Un point, s'il vous plaît. Un point.
Un point. Un point pour Guillaume.
Merci.
Bravo. Parce qu'en plus, on a fait un petit quiz foot, rien à voir avec Amaury et Quentin avant. Et ils sont joueurs. Ils sont joueurs, les deux. On enchaîne.
Qui a gagné d'ailleurs? Qui a gagné?
C'est Amaury. Pour l'instant, c'est Guillaume. Avec un point. Très bien. On enchaîne avec mon préféré. Voilà, en deux, mon préféré. Nigo de professeur.
Professeur Folding.
Oh, c'est là! Nigo de professeur.
Ah, oui, je préfère
c'est bien ça.
Nati professeur.
Nigo de professeur
Folding.
J'adore Nigo de professeur.
On dit plus Nigo.
T'es un Nigo.
Nigo.
Espèce de gros Nigo.
Ok,
ah,
troisième.
Nigo, celui-là.
1, Guillaume 1, Aurélien 1, les invités 0.
0.
Le troisième, putain. Attention, film de peur.
C'est moi, Scary Movie.
C'est toi qui l'a dit. C'est Aurélien. On me dit, la VAR me confirme, c'est Aurélien.
Ouais, non, c'est
Scary Movie, bravo. Il est chaud, Aurélien, c'est là-dessus.
Ah, c'est le truc sur Scream, il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je m'en rappelais.
Ouais.
Le quatrième maintenant, mon fantôme d'amour.
Ghost.
Oh, c'est là. Mais qu'est-ce qui se passe à Aurélien Quentin?
Attends, mais moi je suis au spectacle là, je regarde, là, et j'apprécie.
Que je l'avais en plus.
Mon fantôme d'amour. On aime bien ce titre ou pas?
Non, pas moyennement.
Guillaume, t'es chaud. 2-2.
Non, mais là t'es très très chaud là.
2-2. Il est concentré, je le vois là-bas. Je le connais, il est tout concentré là-bas.
Je vais gagner. Allez.
Ça te fait plaisir. Ça enchaîne. danse lascive.
C'est lascive.
C'est une folie de graduation.
Attends,
ah, oh. J'aime bien, il y a un doute. Une folie de graduation. C'est quoi la graduation?
C'est quand tu passes un niveau. C'est...
Aux États-Unis, graduate, c'est quoi? Folie de graduation.
Attention, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
American Pie.
Ah putain.
Ah, attends, mais j'allais dire American Pie.
Je me suis dit, aucun rapport. Bah si, mais fallait le dire.
C'est une folie de graduation.
Voilà, ce que je te dise.
D'accord.
C'est la folie de graduation.
Ok.
Je suis pas d'accord avec ça.
Excusez-moi. Combien? 3, Guillaume? 3, 2, 0, 0.
Oui.
Le prochain. Du soleil plein la tête.
Et toi, Sunshine,
oh, du soleil plein la tête.
Non, mais qu'est-ce que c'est que ce titre aussi?
Je te dis du soleil plein la tête.
Tabernacle. Mais si tu vois le film,
personne n'a pas vu le film.
Je sais qu'il y a des Québécois qui nous écoutent. On ne se moque pas.
Hostile Calice, je gagne.
Bah oui, tu dis bien. J'étais à Montréal d'un coup là, tu vois. Ça fait combien? 4-2, hein, ils se détachent.
Ça fait beaucoup.
Ils se détachent. Mais quand est-ce que vous trouvez un truc, vous aussi, là, 0-0 là?
D'accord, mais moi j'ai cru qu'on jouait à la cool, mais ok, d'accord.
Non, il y a des compétiteurs.
Il faut s'y mettre, hein, ça fait déjà 8 points là. J'ai cru qu'on jouait à la cool, allez, on y va là.
Ok, le prochain, je l'aime bien. Ça va aller vite. Détestable moi.
Si, moi, moche et méchant.
Oh, c'est là, oui! Détestable moi.
Mon cerveau n'est pas connecté à...
Ah, le prochain, je l'adore.
Oui.
Air Bagnard.
Si, les ailes de l'enfer.
Oh, les ailes de l'enfer, il égalise à 4-4.
Mon cerveau n'est pas connecté.
En anglais, c'est Con Air, en français, les ailes de l'enfer, et en québécois, Air Bagnard.
Relou pour des billets d'avion pour Air Bagnard.
Air Bagnard.
Qu'est-ce que c'est?
Putain, c'est beau ce match. Est-ce qu'on continue avec Emory Quentin ou on fait juste
franchement,
un.
Franchement, on vous laisse.
Non, mais c'est ce que j'étais en train de regarder.
Vous connaissez pas ici, il peut y avoir un kit tout double.
Il peut changer.
Vous êtes lâché pendant tout le long et après d'un coup être les héros.
Les connaissances ne sont pas du tout récompensées.
Bah, il y a 4-4 en même temps.
Ouais, bon.
Le prochain, attention, ah, il y a une petite difficulté. Clanche.
Oula.
Alors, clanche, faut savoir que clanche, c'est une expression, moi qui ai vécu là-bas, c'est une expression québécoise. Clanche.
Scream?
Non. Clanche, avec un point d'exclamation, clanche. Alors, pour vous donner un indice, cette expression à Montréal, enfin au Québec, clanche,
speed.
C'est. Oh, speed, oui! Clanche, c'est quand on met la patte sur l'accélérateur. Okay. Clanche,
appuyez sur la clanche, mets-toi sur la clanche.
Bravo, comment t'as fait pour le trouver celui-là?
Parce que j'ai réfléchi à clanche. Je suis savé avec la vitesse.
En fait, vous avez un seul mot.
Bon, il y a 5-4 pour Guillaume.
C'est une catastrophe, c'est vraiment une catastrophe.
Oh, il est concentré, déconcentré.
Pas qu'on fasse un quiz sur
le.
Ok, il en reste 4, attention.
Oui.
Comme un taureau sauvage.
Raging Bull.
Oh, mais il est fort là-bas, il est fort, il me régale.
Là, je l'avais, mais trop tard.
Il me régale.
Vous entendez les applaudissements de la foule?
Si c'était un jour de foot, ce serait Mbappé. Il me régale.
Du charisme à revendre, ce garçon. Je suis loin, là.
Ouais, 6-4.
Regardez-moi de dos.
Il en reste 3. Attention, le prochain, un ciel couleur vanille.
Vanille Sky. Il est trop fort.
C'est 7-4. Voilà, il est trop fort. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? Le prochain, attention, je vais aller vite. Marie a un je ne sais quoi.
C'est là, c'est Quentin.
Quentin marque son premier point.
Allez.
Bon, il en reste un.
C'est le petit tout double.
Bon, écoutez, on peut dire que Guillaume, quand même, est le premier. On peut le féliciter.
Merci.
Le premier gagnant de cette première phase. Mais j'ai décidé de faire un kick double.
Comme par hasard. Ah bon, c'est moi la première fois. Aujourd'hui, exceptionnellement, on va faire un kick double. Bah oui, évidemment. C'est toujours Aurélien qui l'emporte à chaque fois. Je la connais par cœur.
Ah, il a la pression là-bas. Alors, le prochain, celui qui gagne, c'est le grand champion.
Oui.
Et je vais même faire un truc.
Oui. Je donne 10 euros sur son leader.
Non, pour vous dire ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un quiz juste avant. J'ai dit, celui qui trouve, je donne 10 euros sur
une
Lydia.
Une plantade.
Voilà. C'est Quentin qui a gagné, mais quand j'ai voulu lui donner 10 euros, il y a marqué une erreur est arrivée sur.
Ah bah, j'ai carte muette. Ouais,
carte. Vraiment, t'as abandonné très
vite. Très vite. J'ai abandonné très vite.
Ouais, bon, t'as.
J'avoue, j'ai abandonné très vite. Oui, donc, on va faire un truc. Celui qui gagne là,
oui.
on devra faire un tour de table et on est obligé de dire tu es le maître.
Oh ouais, ouais,
j'apprécie, ouais, tu es le grand maître à ce jeu.
Ah oui, d'accord.
Ok, est-ce qu'on est prêt?
Oui, oui,
vas-y, vas-y.
Ça va aller très vite le prochain. Brillantine.
Grease.
Oh, c'est la bonne.
Incroyable.
Il le remporte avec Maestro.
Ah ouais,
ah, c'est beau.
Écoute, Guillaume, tu es le grand maître à ce jeu.
Attends, j'aimerais le silence total et que chacun me le dise. Chacun me le dise à son tour.
Alors, regarde, t'as un truc à dire à Guillaume?
Bah ouais, je pense que tu es le grand maître. À,
merci, à merci. Tramori, t'as un truc à dire à Guillaume?
Bah bien sûr, Guillaume, tu es le grand maître.
J'apprécie ta sincérité.
Je voulais vraiment te dire que tu étais le grand maître à ce jeu, Guillaume.
Ça fait plaisir.
Ça te régale, hein?
Tu l'as pas dit, toi?
Mais si, je l'ai dit tout à l'heure.
Non, redis-le.
Mais si, je l'ai dit.
Redis-le.
Mais je peux le redire deux fois. Redis-le.
Il a commencé.
T'es le grand maître.
Voilà. Ah, c'est beau ce qui s'est passé.
Bravo.
Ah ouais, fou.
Ah non, mais il en reste un.
Oh non.
Ah d'accord.
Attends, Guillaume, je connais d'autres maîtres.
Je retire ce que je viens de dire. Je retire ce que je viens de dire. Tu n'es pas le maître.
Il peut y avoir.
Alors, je retire tout. On retire tout.
Mais
ce
là, s'il trouve, c'est le.
Là, si je trouve,
c'est quoi?
Non, mais par contre, on retire.
Chacun met 10 euros sur son Lydia.
Celui qui trouve le prochain, on lui dit qu'il est le dieu à ce jeu.
Ok.
Oui, effectivement. Excusez-moi, j'ai vu qu'il y a un moment qui est un. Bon, ouais.
Si j'échoue maintenant, c'est catastrophique.
J'aurais pu gagner.
Ça gère la haine.
Très bien. Attention, c'est le plus dur en plus. Alors je vais essayer de. Vous êtes prêts, c'est bon?
Vas-y,
c'est bon.
Ferrovipat.
Jurassic Park?
Eh, c'est non. Ferrovipat.
Mille et une pattes?
Non. Qu'est-ce que ça veut dire ferrovipat?
Microcosmos?
Qu'est-ce que ça veut dire ferrovipat? Ça veut dire un truc en français, le mot ferrovipat.
Ah bon?
Ah ouais?
Ah ouais?
Ouais, 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 ça veut dire.
Racine, oh,
c'est pas avec train?
Ferroviaire.
Ah ouais, ouais.
Train.
C'est avec le train, effectivement.
Dernier train pour Busan.
Non.
Money train.
Le train de la mort.
Ferrovipat. Non, mais le mot train, ça voit.
Snowpiercer.
Le mot train.
Transporting.
Transporting! Oh là là! C'est incroyable ce qui est en train de se passer!
Est-ce que tu te rappelles en 2017 cette remontada? Est-ce que tu t'en rappelles?
Il a trouvé zéro réponse et il nous trouve Trainspotting.
Voilà, c'est vraiment l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de ma vie.
Il est incroyable.
Ça commence mal.
Et puis bon, Guillaume, bah derrière, est-ce que t'as un truc à dire à Maury, Guillaume?
Je t'entends pas. Attends, vas-y, tu peux remonter.
Je t'entends pas bien.
Tu fais un mètre.
Mais tu es un mètre. Tu es
non,
un mètre.
Non.
Oh, j'ai Dieu.
Ah, c'est Dieu là.
Un mètre déjà.
Non, c'était le Dieu.
Il a gagné qu'une seule réponse. J'ai pas dit.
Non, c'est comme ça. C'est là. C'est. Excuse-moi là.
Vas-y, écoute. Vas-y.
Il t'écoute.
Je t'entends.
Ouais, t'es Dieu.
Avec un petit coup de seum quand même.
Quentin, t'as un truc à dire à moi?
Bah écoute, j'ai complètement envie de te dire que tu es un dieu à ce jeu.
Merci de votre sincérité, les gars.
Ah bah là, totalement dieu, hein. Transporting, dieu à ce jeu.
Écoute, au jeu des titres québécois, pour moi, à mes yeux, tu es un dieu. Voilà.
Bah écoutez, merci les gars.
J'aurais aimé te dire Guillaume, mais c'est lui le dieu, je suis désolé. Hein. C'est le dieu de...
C'est fou.
Guillaume, il est dégoûté. Non,
il a vraiment le seum, vous pouvez pas le voir. Il est dégoûté.
Non mais franchement, putain.
Ferrovipat, ça veut dire quoi ça?
Ferrovipat, incroyable. Je vais te dire ce que ça veut dire. Le terme de ferrovipat, en anglais britannique, Trainspotter, désigne un passionné du monde ferroviaire et des trains, qu'il soit à taille réelle ou en miniature. C'est un ferrovipat.
C'est,
eh oui,
c'est un classique, quand même.
C'est pour ça que c'est un dieu. Hein,
ouais, bon, je vois ce que tu veux dire. Allez, sèche tes larmes.
Trainspotting, c'est-à-dire c'est un film sur les mecs qui regardent les trains.
Bah oui, bah qu'est-ce que je te dis.
Non, bon. C'est des gens qui aiment les rails.
Ah, mais oui, c'est ça. Bien sûr.
Tu es un demi-dieu pour moi.
Mention spéciale à un titre que je trouve vraiment bien trouvé pour le coup cette fois. À votre avis, comment ils ont appelé Sister Act? Pour le coup, je trouve ça très malin, très bien trouvé. Sister Act.
La bonne sœur?
Non. Mais ils ont fait un jeu de mots avec, avec les thèmes du film et je trouve ça très très bien trouvé. Sister Act, on l'a pas?
La sœur qui chante?
Non. Oh, il est presque, Guillaume.
Non.
C'est avec non.
Non Country for Old Men. Non.
Il y a un jeu de mots avec non, effectivement. Non. Il est fort, hein. T'es un maître à ce jeu, toi.
Non.
C'est Rock and None.
Ah,
c'est un jeu de mots avec Rock and Roll, Rock and None.
Ouais,
c'est plutôt pas mal, non?
Ouais, excellent.
Plutôt pas
c'est
mal.
C'est très bon.
Très bien. Là, on vient de parler de titres québécois. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir un film en salle à l'étranger, Guillaume?
Ouais, plusieurs.
Ouais, t'as vu des films où, toi?
Déjà, on est allé voir, on a eu la chance d'être à l'avant-première de Pikachu au Japon.
Ah oui, c'est vrai qu'on a fait ça, exact.
Eh oui, c'est une salle japonaise, c'était pas mal.
Avec des grands, des grandes boîtes de popcorn.
Exactement. Ouais. Et je suis allé voir aussi, aux États-Unis, j'avais vu, Sausage Party.
Ah, cool. Ok.
C'était très cool dans un énorme ciné, LA, je crois, ou je sais plus.
Bon, ça a toujours une saveur particulière d'aller voir un film à l'étranger. Amaury, toi?
Moi, j'avais vu en Catalogne, en Espagne,
En
busca de la felicidad.
C'est quoi?
Qui veut dire la recherche du bonheur avec Will Smith.
Ah oui.
Et vraiment.
En espagnol?
Ouais, en espagnol, du coup. Et Will Smith a une voix, enfin, la voix espagnole de Will Smith est incroyable. C'est vraiment un mec qui, t'as l'impression qu'il engueule tout le monde à chaque fois. Enfin, vraiment, il est vénère. Un peu comme Will Smith, d'ailleurs. Je suis en train de penser.
Tu veux dire qu'il met des baffes en parlant?
Est-ce que tu as pris une claque en sortant de ce film?
Oh là là. Aurélien.
Oui, j'ai plusieurs fois, mais je me souviens de 22 Jump Street à Berlin.
Ah ouais, tiens.
Et oui. C'était fun, on a bien rigolé.
Mais donc du coup tu l'as vu en, enfin tu t'as vu la VO, t'as pas vu?
Ouais, là-bas ils passent que la VO, ils s'en foutent, il y a pas de doubleur allemand. Ouais. Ils font plus ça.
C'est ça.
Il y a des pays comme ça où il y a pas de doublage en fait.
Ouais.
C'est
pas.
Surtout les latins qui veulent pas apprendre l'anglais.
Ouais.
Genre les français, les espagnols, les italiens où il y a beaucoup de doublage, mais sinon les allemands, il y en a pas.
C'est que de la VO.
Quasiment pas.
Quentin.
Je crois pas que je sois allé au cinéma à l'étranger.
Bah Nancy quand même.
Effectivement.
C'est dur.
Aïe aïe aïe.
Non, pas jamais à l'étranger?
Non, je crois pas. Je pense pas.
Très bien. Moi, j'étais allé voir. Donc, j'étais parti vivre à Montréal en 2008. J'arrive un vendredi et le samedi, le lendemain, parce que là-bas, les sorties de films, c'est pas le mercredi, c'est le samedi, sort Dark Knight.
Ah ouais.
Et j'étais allé le voir. C'était vraiment, j'avais encore le décalage horaire en tête et tout. Et j'avais trouvé ça incroyable. Une salle immense, genre IMAX.
Ouais.
Les gens, il y a des clips avant. Il y a pas de bande-annonce avant les films. Il y a des clips là-bas, des clips musicaux. Les gens dansent debout.
Ah,
tout le monde était déguisé en Joker, en Batman, etc. Bon là, en l'occurrence, c'était vraiment une séance exceptionnelle. Mais j'avais trouvé ça trop bien. Après, pendant le truc, il respecte le film. Mais il y a un truc là-bas qui est très bizarre avec les États-Unis et l'Amérique du Nord, c'est que tu vois, par exemple, en France, quand je vais voir un film et que le public est un peu chaud, qui crie, qui applaudit, je suis un peu saoulé. Mais là-bas, je sais pas.
Et tu trouves ça cool à l'étranger.
Mais voilà, je trouvais ça cool à l'étranger. Tu sais, il y avait un truc où quand on voit pour la première fois Batman, la salle était en feu, etc. Il y avait un truc où je me disais, ok, c'est comme ça qu'ils font aux States, quoi. Tu vois.
Ouais,
Alors qu'en France, il y a un délire où je sais pas, ça me saoule un peu.
Putain, mais rassiez-vous, putain.
Ouais, voilà. Tu vois. T'sais, en France, t'as envie d'être un peu,
pas saoulé. Comme ça en France,
c'est ça.
Mais là-bas, tu t'adaptes au truc.
Laissez-moi regarder mon film de Catherine Frotte tranquille.
Ouais, ouais, exactement.
qu'on embrasse. Frotte. Oui, d'ailleurs, je sais jamais. C'est Frotte, c'est Frotte.
C'est Frotte, je pense, mais.
Parce que.
C'est comme Pierre Alain.
Je crois que le tea est salé.
Ok. Bon, bah écoutez. Je suis désolé Catherine.
Alors quand on creuse un peu, on pourrait penser que le synopsis de No Country for Old Men est un peu une tradition américaine, car des films dans lesquels des gens lambda trouvent de l'argent, il y en a eu quelques-uns. Aurélien, pourrais-tu nous donner envie de voir des films similaires à celui qu'on traite aujourd'hui?
Bien sûr, j'en ai 5. 5 films de
qui
gens...
ressemblent un peu à No Country for Old Men.
C'est ça. Des gens qui trouvent de la thune et ils savent pas ce qu'ils vont en faire, et c'est bien le sujet du film. Un petit jeu peut-être. Peut-être compliqué, mais je vais vous lire les pitchs et si vous avez le film, c'est mortel.
Ouais, tu peux y aller,
ça peut se faire et après c'est chaud. Premier pitch. Par une froide après-midi du jour de l'an, Hank Mitchell, son frère aîné Jacob, âme simple sur laquelle il a une grande influence, et Lou, le copain de Jacob, je suis déjà perdu, découvre dans l'épave d'un avion de tourisme recouvert par la neige cadavre. Et ouais, c'est ça, un plan simple de Sam Raimi. Mais je redis la fin du petit truc. Le cadavre du pilote et un sac contenant 4 millions de dollars. Pour Jacob et Lou, tous deux au chômage, c'est une manne que leur envoie le ciel. Mais pour Hank, dont la femme aimée attend leur premier enfant, le rêve américain ne se vole pas. Après une longue discussion, ils décident tout de même de garder l'argent et mettre sur pied un plan simple. Donc, un plan simple de Sam Raimi.
Alors, combien il y a dans le sac ?
4 millions.
4 millions, okay. Je fais un tour de table. Vous trouvez comme ça, dans une scène, comme dans No Country for Old Men, une scène de crime, enfin on sent que ça sent pas bon, il y a un sac rempli d'argent comme ça. Vous le prenez, Guillaume ? Ou tu le restitues à la police ? Que tu devrais faire. Est-ce que tu le prends ou tu. Non, mais après, tu peux faire un truc. Tu peux prendre genre 1 million tranquille et tu restitues le reste à la police tranquille. Mais qu'est-ce que tu fais toi?
Mais je le prends en fait.
Tu prends tout.
Bah oui.
Au risque de te faire retrouver par les méchants.
Mais non.
Très bien.
Ils vont me retrouver, tu crois?
Ouais, peut-être.
Non, quoi. Sinon, je t'appelle et je te demande ce que j'en fais.
Bah déjà, je te dis, prête-moi de la thune pour mes conseils. Je suis un cabinet de conseils. Donc tu
prête-moi de la thune pour mes Lydia. Ouais.
Quentin, qu'est-ce que tu fais toi?
Moi, je pense sincèrement que j'en prends un petit peu.
Ah.
De quoi?
Et donc, tu peux aussi reprendre des blessés.
Tu prends sur 4 millions par exemple là, tu prends combien?
Je prends 1 million.
Ouais.
Ah ouais.
Je prends 1 million et je laisse le reste.
Tu laisses 3
prends
millions
deux,
par
allez,
terre.
Prends 2, prends 2.
Ouais, bon, allez, ouais, prends 2.
Prends-moi
prends
la moitié.
Deux,
prends 2, ouais. Là, allez.
Ouais, allez, vas-y, prends 2, là.
Tu dis, sachant que...
Là,
fais moins de moi, donc tu dis...
Sachant que si prend 1 million et que je passe derrière, je prends les 3 autres. Du coup, en fait, c'est niqué.
Quentin, Amaury, pardon. Putain, mais j'arrive pas.
Non, mais non, mais moi, en fait, j'aurais... Tu sais, bah, c'est dans Dark Knight, justement, qu'il y a ça. J'aurais juste peur que les billets soient marqués. Donc du coup,
ah oui,
parce que j'ai clairement envie, moi j'arrive, je vois 4 millions, je prends les 4 millions, je m'en fous. Mais oui. J'aurais peur juste du petit bonsoir. En fait, les billets étaient marqués depuis le début, donc vous avez...
Après, si tu les trouves par terre, tu les trouves par terre, c'est pas de ta faute.
Ouais, c'est vrai.
Oui, enfin bon.
Enfin, mais c'était quand même sur une scène où le corps gisait juste à côté, il y avait du sang de partout.
Tu veux pas aller en prison parce que t'as trouvé de l'argent par terre, enfin, ça n'a pas de sens.
En tout cas, la plus grosse erreur, c'est de prendre le sac et après de tout mettre à la caisse d'épargne tout de suite. Tu vois la caisse d'épargne et puis tu mets tout.
Et d'acheter quelques lambeaux, tu vois, c'est un peu louche ça,
j'avoue. Très bien, Aurélien. Donc, premier film, Simple Plan, qui est un très bon film d'ailleurs.
Eh ouais, je vous le recommande.
C'est quelle année ça, Simple Plan?
98,
ouais.
98, ah, ok.
C'est avant.
Mais c'est un super film. Et c'est avec un acteur que j'adore, le regretté.
Bill Paxton.
Ah ouais.
Et il y a aussi Billy Bob Thornton qui joue son frère un peu simple, justement.
Ok. Ouais.
Et franchement, c'est un très bon film, en effet. C'est la période entre les Evil Dead de Sam Raimi et les Spider-Man de Sam Raimi.
Okay.
C'est un peu un film à part dans sa.
Super film.
Ouais.
Et exactement le genre de film, tu sais pas quoi regarder un soir,
ouais.
Tu mets ça et tu passes un très bon moment.
Très bon thriller, en effet. Deuxième petite histoire d'un film. Voilà.
C'est un super pitch.
Voilà.
Alors, Joe Cole, docker au chômage, trouve 12 millions de dollars qui tombent d'une voiture blindée. Un fourgon blindé.
Avant ça, petit tour de table, si vous trouvez 12 millions, qu'est-ce que vous faites?
Là, tu sais que 12 millions, okay. Ça tombe de la banque. C'est apparemment tombé d'un fourgon blindé.
Tombé du camion.
Il prend alors l'argent et s'enfuit. Il va retrouver sa petite amie, son ex-petite amie Monica, qui travaille dans une entreprise d'investissement.
Ah, ça doit être un film avec François Cluzet, ça.
Avant d'aller demander de l'aide à la mafia pour blanchir l'argent. Le mec,
ah oui, bon d'accord. Oui.
Pendant que Joey prépare un plan pour quitter le pays, un détective le suit à la trace pour récupérer le cash. J'adore ce... C'est pas manqué.
La cash money.
Je lis vraiment des pitchs sur un site.
Ça me dit rien. Quelle année?
Attends, je vais vérifier.
Enfin, dans le genre, quoi. Dans
90.
Dans les années 90.
En fait, si vous trouvez pas le nom, c'est un film qui est vraiment pas connu en France.
Bah, ça me dit rien. Hein.
Et si vous me trouvez l'acteur.
Bah, si j'ai pas le
vous
film,
avez des points.
Si j'ai pas le film, j'ai pas l'acteur.
Il s'agit d'Edward Norton.
C'est presque ça. C'est proche. C'est très proche.
Matt Damon.
C'est presque Edward Norton.
C'est moins bien que Matt Damon.
Je crois que quand on me dit Edward Norton, je pense à Ethan Hawke. Je sais pas pourquoi.
Eh bah, c'est pas si éloigné, mais c'est le même genre de.
Transporting.
C'est ça.
C'est ça. Ah, ok.
Ferro, ouais.
Non, je l'ai pas.
Non. C'est un film avec John Cusack.
Ah, ok.
Ah, ouais.
Le film s'appelle Money for Nothing de Raymond Hernandez.
Telle la chanson de
Dire Straits.
Un film qui avait bien cartonné à l'époque. Pourquoi? Parce que c'est une histoire vraie. Et ce Joey Cole a existé. Et il a vraiment trouvé, je sais pas combien,
14 millions, tu as dit, je crois.
Je crois que c'est en fait
c'est 12, planté, 12. C'est pas mal déjà.
En fait, ils m'ont eu, c'est 1,2.
Ah,
c'est 1,2 million de dollars.
Ça reste cool, mais voilà. c'est
assez fou.
Mais ouais. Apparemment, c'est pour ça que c'est très précis, c'est que c'est une histoire vraie.
D'accord.
Donc, il y avait eu tout ce fait divers qui a eu lieu aux États-Unis. Et donc, les gens voulaient voir le film par rapport à cette histoire qui était assez rocambolesque, vu que la mafia, alors que c'est un mec qui est sans histoire, qui se retrouvait avec plein de gens. Autre film, autre pitch, année 2000, 2005 pour être précis. Deux enfants découvrent le butin provenant d'un braquage d'une banque. 7 jours avant le passage à l'euro, Anthony décide d'investir dans l'immobilier.
Je rappelle
que c'est les enfants. Ouais. Mais de peur que le marché s'effondre, Damian, son ami, préfère aider les plus démunis.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Ouais. Non, je pense que personne n'a vu ce film, hein, vraiment.
Attends, c'est un film français.
Il y a raison,
c'est
bah,
pas
d'ailleurs.
Du tout un film français. Le réalisateur est très connu. Enfin, très connu, oui, c'est un réalisateur
donc,
anglo-saxon connu.
Ok.
Film en 2005. Ce qui est assez fou, c'est que.
Danny Boyle?
Bah oui, c'est ce que j'allais dire.
Ah, ok, excuse-moi, en fait, je faisais une story au même moment, j'ai pas écouté.
Non, mais en fait, je croyais que tu faisais une blague par rapport à Trainspotting, mais c'est vraiment Danny Boyle.
C'est
le réalisateur.
Danny Boyle. Okay, d'accord,
d'accord. L'histoire est vraiment Danny Boyle de ce film.
Ok.
Qui s'appelle Millions, que personne n'a vu, de deux enfants qui découvrent vraiment un butin provenant d'un braquage, et c'est donc une histoire entre deux kids de 7 ans qui se demandent ce qu'ils vont faire de cet argent.
D'accord.
Ce n'est pas une histoire. Autre film, autre pitch. À la recherche du colocataire idéal, trois amis font passer un examen d'entrée très strict à bon nombre de postulants jusqu'à ce qu'ils découvrent la perle rare en la personne de Hugo. Celui-ci se révèle...
Quoi ? Quoi ?
Five, j'ai dit.
Non, Five, non. C'est pas français. Celui-ci se révèle tellement discret qu'il meurt en silence, enfermé dans sa chambre, quelques heures seulement après avoir emménagé.
C'est quoi ?
Attends, c'est un peu le même genre.
Sex tape and.
Non, c'est bien truc.
Merde, alors c'est quoi, attends, c'est pas, donc ça, non, c'est pas Guy Ritchie.
Avec le corps. Non. Avec le corps se trouve une valise pleine de billets qui va rapidement avoir raison d'une longue amitié.
Oui.
Qu'est-ce qu'ils vont faire de ce corps et de ces billets?
C'est un truc en trois. C'est un titre en trois trucs, non?
C'est un titre en trois trucs.
Oh là là, là la vache.
Il y a trois mots dans le titre.
Je pense que tu confonds avec Very Bad Trip.
Non.
Non, pas Very Bad Trip. Very Bad.
Attends, mais Aurélien, là, je...
Le premier Very Bad, là.
Non.
Celui avec Cameron Diaz et
non,
tout.
Non, non, non.
Ok, d'accord.
Alors, attends, juste, c'est quelle année à peu près?
Crime et
vidéo.
On est toujours crime et vidéo.
Non. Sexe, mensonge et vidéo.
Sexe, mensonge et vidéo.
C'est ce que j'ai dit, c'est ce qu'il a dit.
On est catastrophique.
Ça a été dit déjà. Que JB a déjà cité.
De quoi? Quand?
Il y a pas très longtemps.
Ah, j'ai cité celui il y a pas longtemps. Bah attends.
Non, le réalisateur.
Le réalisateur.
Alors, Danny Boyle. Danny Boyle.
Encore
Danny Boyle.
Danny Boyle, il aime bien qu'on trouve de l'argent.
C'est quoi le film?
Le film, c'est Petit Meurtre entre amis.
Ah putain, ah, c'est ça que je voulais dire.
C'est ce qu'il voulait dire.
C'est ça que je voulais dire.
Ah, le truc en trois.
Petit Meurtre entre amis. Ouais,
ouais,
voilà.
C'est ça que j'avais en tête, effectivement.
Voilà.
Petit Meurtre entre amis.
Bah, pourquoi, oui. Tu veux qu'on te dise que t'es le dieu, c'est ça?
Dites-moi, bah, dites-le-moi. Ouais, oui, dites-le-moi.
Alors, dis-nous le titre québécois.
Ah ouais, c'était.
Ah, voilà.
Carlis, Petit Meurtre entre amis.
Oh mon dieu.
J'aurais compris le titre en anglais. Je sais pas trop ce que ce sera en québécois.
Okay.
Le dernier, bon. Il est un petit peu plus lointain, mais c'est aussi de l'argent qu'on retrouve dans une mallette. Mais vous allez trouver, je pense, il est plus connu en tout cas. Après un malentendu à l'aéroport, deux amis, Lloyd et Harry, spécialistes de l'élevage de lombrics, partent à la recherche de Mary, qui semble y avoir oublié sa valise pleine de billets. Mais ils se retrouvent au centre d'un complot.
Ça, mais c'est
Attends, c'est quoi ça?
Et surtout, ils ouvrent jamais la valise. Parce qu'ils sont débiles.
De Ben Humber ?
Eh ouais !
Ah, mais oui,
c'est
le
film de lombric qui m'a fait.
Ouais, je sais pas pourquoi ils mettent ça dans le.
C'est pas pourquoi ils mettent ça.
Des fois, dans les pitchs, ils mettent des détails.
Ils sont hyper précis pour
rien. Et oui, de Ben Humber, en fait, il trouve. À partir du moment où il amène la dame à l'aéroport, elle oublie en fait la rançon que des gangsters sont censés récupérer. Et ils disent, mais attends, t'as oublié ta valise. Et ils vont la chercher partout pour lui rendre sa valise, dont elle ne veut absolument pas. Des trop relous. Voilà, c'était les 5 films.
Bravo. Eh bien, bravo. Bravo Aurélien, c'était très cool. Tu nous as donné envie de voir ces films.
Bah ouais.
Surtout le Simple Plan que je recommande à fond. Dumb and Dumber en québécois, Guillaume
Les idiots, non?
Oui. C'est vraiment avec l'accent. Idiots, avec l'accent.
Débile et débile.
Mais ouais, je pense que ça doit être un truc comme ça, non?
Est-ce que tu peux nous faire l'accent africain maintenant?
Ok.
Oh là là. C'est comme l'accent québécois, quoi.
La Michel Leb.
Par contre, je peux faire l'accent belge.
Ah, c'est faire l'accent.
Vas-y.
C'est un astus.
C'est ce que je disais. Il y a que ça.
Micro-imitation.
En général, quand Guillaume fait des imitations, c'est juste un petit mot.
Je peux faire Khaled.
Ah oui?
Comme si.
Bah,
c'est le début de Aïcha. Le début de Aïcha.
Moi j'étais.
Non, mais le sosie vocal.
Alors il l'a fait mille fois dans le podcast, mais sa patte, c'est de juste faire un petit mot. Est-ce que tu peux nous faire ta spéciale, s'il te plaît?
Christophe Maé?
Bien sûr.
Chafou. Attends, pardon.
Oh là, j'ai appris,
Attends. Chafou. C'est pas le bonheur.
Oh là là.
J'ai fermé les yeux, j'étais. Il était.
Il est fort.
On va faire Renaud. Fais-le Renaud, allez.
Attends, JB. Est-ce que tu fais Renaud ou Renaud maintenant? Parce que c'est pas la même.
Il fait Renaud. Il fait vraiment le vrai Renaud.
Parce que maintenant, ça a beaucoup changé.
Allez. Ok, mais j'ai toujours la même
phrase. Allez, vas-y.
J'ai toujours la même phrase.
Oui, je sais.
Élise, Libération, les bobos.
C'est un mix entre Renaud et Jean-Marie Le Pen. C'est très bizarre.
Oh là là.
C'est bout du spectre.
Renaud Le Pen.
Élise, les Libération, les bobos, non?
Jean-Marie Le Pen.
Libération.
Très bien. Amaury et Quentin, citez-moi une chose qui croustille.
Des frosties.
Ouais.
Du granola.
Mauvaise réponse, il fallait dire les anecdotes qu'on retrouve à la fin du podcast.
Oh, ouais.
Vous êtes tous
c'est
les deux
vrai.
Trompés.
Mais oui.
Avec vos frosties, là, c'est pas du tout ça en fait. Très bien. Alors pour commencer,
calmez-vous pour... parce que je vous rappelle que je suis le dieu ici. Donc
c'est
calmez-vous.
Vrai que le dieu. Ouais, c'est vrai. Pour commencer, pour celles et ceux qui ont GTA V, sachez qu'il est possible de vivre le synopsis de No Country for Old Men.
Exactement.
Il y a dans la map une mallette remplie d'argent cachée quelque part, et si on la trouve et qu'on décide de la prendre, eh bien on se fait poursuivre comme dans le film. Plutôt cool, non?
Ouais, on trouve. Bah, après, c'est une mallette de juste de 25 000 $.
Ouais, mais c'est pas mal.
En argent, GTA vaut pas grand-chose.
Ouais, mais c'est cool. En vrai, tu trouves 25 000, tu les prends.
Bien sûr.
Bien sûr.
Est-ce que je prends une partie, puis après le reste, je le laisse.
Bah, allez,
je
prends les 25 000.
Ouais, mais j'ai pas qu'ils soient marqués et tout, alors du coup, je laisse la deuxième partie à Guillaume.
Si on suit le raisonnement de Quentin, tu prends juste 3 000 euros, quoi. C'est triste sur les 25 000.
Ah oui, c'est vrai. Tu prends quoi, là?
Ouais, ouais.
Franchement, je sais pas. Là,
mais t'es capable de juste prendre la mallette, toi, et de laisser l'argent.
Oui. Bah, c'est pratique pour les vacances.
Figurez-vous qu'en 2013, un groupe de psychiatres d'une université de Bruxelles se sont réunis afin d'étudier tous les plus grands psychopathes de l'histoire du cinéma. Mmh. Et après des heures d'analyse, ils en ont conclu que le psychopathe qui correspond le plus à la réalité est Anton Chigurh, le perso incarné par Javier Bardem à l'écran. Comme quoi, c'est le plus grand psychopathe de l'histoire du cinéma, probablement.
Flippant que ça puisse exister, par
contre. Ouais, c'est
clair. Histoire très cool maintenant, j'en parlais au début du podcast, lorsque Josh Brolin joue dans No Country for Old Men, il n'est pas vraiment connu du grand public. Alors il a passé une audition, mais pas n'importe laquelle. Lorsqu'il lui a été demandé de se filmer pour jouer le texte, il était sur le tournage de Grindhouse, ce diptyque réalisé par Quentin Tarantino et Robert Rodriguez. Alors les deux réalisateurs lui ont proposé de filmer son audition, et pas avec n'importe quelle caméra, avec celle utilisée pour le film, une caméra à $1 million. C'est de cette façon que Josh Brolin a pu par la suite envoyer son audition aux frères Cohen. C'est classe, non?
Ouais, c'est très stylé.
Sympa.
Une audition réalisée par Tarantino et Rodriguez.
Pas mal, franchement. Il a envoyé de la péloche, quoi.
Ouais.
Pas mal, hein? À la base, Javier Bardem n'était pas du tout chaud pour faire le film, en particulier car il n'est pas à l'aise avec la violence. Alors il appela les frères Cohen pour leur dire « Les mecs, je sais pas conduire, je parle mal anglais et je déteste la violence. » Ce à quoi les frères Cohen ont répondu en riant « Peut-être que c'est la raison pour laquelle on te veut. » Et c'est comme ça qu'il a fait ce rôle à contre-emploi extraordinaire. Et c'est vrai que quand on voit le film, on se doute pas qu'il déteste la violence. En vrai, il est incroyable ce gars. Cette série d'infos croustillantes serait décevante si on n'abordait pas la fameuse coupe de cheveux de Javier Bardem dans le film.
Oui.
D'où elle vient cette fameuse coupe de cheveux? Eh bien, figurez-vous que l'intrigue... Bah non, c'est pas ça la vraie
d'une
réponse.
D'une perruque.
Figurez-vous que l'intrigue se déroule au Texas au début des années 80. Alors l'équipe des frères Cohen a récupéré un max de photos des années 78, 79, 80 et 81. Et on regardait un peu les styles qu'on trouvait dessus. Que des photos de la frontière mexicano-américaine de cette époque. Et ils ont fini par tomber sur une photo sur laquelle on voyait un gars accoudé à un bar. Un gars avec exactement la même coupe de cheveux. Un gars qui, selon leurs propos, avait l'air d'un psychopathe avec cette coupe de cheveux. C'est comme ça qu'est née l'idée. Et ce qui est incroyable avec cette histoire, c'est que ce mec est probablement encore en vie aujourd'hui, mais il n'a pas la moindre idée qu'il a inspiré ce perso culte. Il a des années-lumière d'imaginer ça. C'est incroyable,
ça,
non?
Ça doit être génial, quoi, quand il a dû voir le film, s'il l'a vu.
C'est fou.
Oh, il est bizarre, ce gars. Il est chelou, cette coupe. Bah, t'as la même, Antoine. Ah ouais.
Tout à l'heure, tu me parlais de There Will Be Blood.
Oui,
je t'avais prévenu que j'allais te.
Mais j'étais là, je l'attendais.
Tout à l'heure, parce que là, c'est le moment. Une bonne partie des scènes du film a été tournée à Marfa, au Nouveau-Mexique. Le problème, c'est qu'au même moment, un autre film était en production à Marfa, There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson.
Oh là là.
Et Marfa, c'est une petite ville. Il a donc fallu cohabiter. Tout s'est bien passé, sauf un jour où il y a eu un problème pyrotechnique sur le film de P.T. Anderson, ce qui a fait que les fumées sont allées tellement loin qu'elles étaient visibles à la caméra lorsque les frères Cohen tournaient. Ils ont donc dû annuler une journée de tournage.
Oh,
et annuler une journée de tournage, bah, ça coûte très cher.
Incroyable. Wow.
C'est fou, cool,
très bonne anecdote.
J'ai envie de dire, c'est de l'argent parti en fumée.
C'est... C'est beau déjà, premièrement. Et Guillaume, tu sembles me dire au loin que c'est croustillant comme info, ça.
Bah, ça me fume.
Ah bah, tu vois. Pas mal. Et enfin, pour terminer, on parlait de mallette juste avant. Tout se recoupe dans ce podcast.
Là.
Pour terminer, dans Fargo, autre grand film des frères Cohen, il y a également une mallette remplie d'argent. Et bien, la mallette que l'on voit dans Fargo est la même que celle qu'on voit dans No Country for Old Men. Petit clin d'œil sympa des réalisateurs. C'est la même mallette. Voilà. Exactement la même. On approche désormais de la fin de ce podcast, mais avant de se quitter, le segment du dernier de la dernière, tout ce que nos invités ont accumulé culturellement ces dernières semaines. Première question pour Amaury. Le dernier film que tu as vu au cinéma?
Alors, ça fait un petit moment quand même que je suis pas allé au ciné. Voilà, mais le dernier film que j'ai vu, là, c'est Batman.
Très bien, t'as aimé?
Voilà, j'ai adoré, mais vraiment.
Quentin, dernier film que tu as vu au ciné?
C'est le film Goliath.
Ok, avec Pierre Niney.
Avec Pierre Niney, Gilles Lelouch et Emmanuel Berco.
À ce qui paraît, c'est pas mal.
C'est pas mal.
Ouais. Dernier film que tu as vu via une plateforme, Quentin?
Je pense que c'est Don't Look Up sur Netflix.
Très bien.
Film assez génial, ouais.
Ouais.
J'ai vraiment beaucoup aimé. Et,
toi, Amaury ?
Le dernier film que j'ai vu sur une plateforme. Oh là là, là
c'est pas le film avec Jal ?
Si, c'est ça. Ouais, exactement, c'est Opération Portugal. Merci Guillaume. Et d'ailleurs, j'étais avec Guillaume, on peut le dire maintenant. On a vu Opération Portugal, voilà. Et gros délire.
La dernière série que t'as regardée, Amaury ?
Alors là, je me suis refait juste Tchernobyl. Parce que j'avais envie de, je trouvais que le monde allait trop bien. J'avais un peu envie de, tu vois, de
voir ce kiff, toi. Bah ouais, toi tu trouves que le monde va bien en ce moment.
Bah moi je trouve que c'est, ça va, non, c'est avec ce qui s'est passé dimanche et tout, c'est assez cool. Hein.
Comme envie de pas se prendre la tête, quoi.
Ouais.
Je sais pas, j'ai envie de légèreté.
Et vraiment cette série, était déjà, moi c'était vraiment ma claque de 2019, mais je trouve qu'elle est encore meilleure aujourd'hui. C'est incroyable. Et pourtant c'est fou parce que il y a personne qui est russe là-dedans, personne parle russe, mais ça passe, quoi. Ils sont vraiment, ils sont très très forts, quoi. Enfin, le Real, vraiment incroyable.
Tu nous disais hors antenne que tu étais pro-russe. Alors, pour quelle raison?
Exactement. Mon oncle est Vladimir Poutine, donc en même temps, tu vois.
Quentin, la dernière série que tu as regardée?
C'est Pam & Tommy.
Ah, super, j'ai adoré.
Très bonne série.
Il faut que je le voie.
Ça fait des jours et des jours que je saoule Guillaume pour qu'il regarde la série.
Elle est vraiment cool, cette série.
Bah, tu peux y aller, Guillaume. Je pense que tu vas passer un bon moment.
Non, mais c'est trop bien. Tu l'as vu, toi, Aurélien?
Bah, j'ai commencé et j'ai bien aimé les deux premiers épisodes. Et il y a un moment où Tommy parle avec son.
Raconte pas.
Ah non, raconte pas, parce que c'est vraiment le c'est un spoil.
Oh.
Et alors, vous avez vu les acteurs avant?
Non, mais les acteurs sont incroyables.
Enfin, vraiment, c'est pas du tout.
Pour remettre dans le contexte, c'est donc une série qui parle de la fameuse sextape qui a fuité dans les années 90. Finalement, c'est un peu la première sextape de star qui est arrivée. Du couple Tommy Lee, Pamela Anderson. Pamela Anderson, la grosse star de Baywatch. Et Tommy Lee, le batteur de Motley Crue. Et les deux acteurs qui les incarnent ont été grimés pour l'occasion.
Totalement.
Ils sont incroyables.
Vraiment, ouais, c'est
grosse perf d'acteur.
Ah ouais, c'est
ils sont
fou,
incroyables. La dernière chanson que t'as écoutée, Quentin?
Alors, c'est plus un album, parce que j'essaie de réécouter un peu les albums, ce qu'on fait de moins en moins, je trouve. Et c'est un album d'un reggae man qui s'appelle Naman, puisque je suis assez féru de reggae, je suis un peu un rasta blanc.
C'est ce que j'ai cru comprendre.
Et voilà. Je savais que ça allait déraper à un moment.
C'est la chute.
T'as gêné tout le monde sur le plateau, là.
C'est pas grave, ça me dérangeait pas.
Autant d'être le neveu de Poutine, ça passe, mais alors ça, c'est non. Ça, c'est non.
Est-ce que tu peux nous donner un titre en particulier? Parce qu'à chaque fois, je mets des extraits. Ça me fait d'avance mal de mettre ça dans le podcast, mais vas-y.
J'ai bien fait exprès, t'inquiète pas. Soul Plane.
La dernière chanson que t'as écoutée, Amaury.
Pareil, c'est un album, c'est l'album de John Baptiste que je saigne depuis.
Qui a gagné tous les Grammys.
Exactement, mais je le saigne depuis
John
un
Baptiste
an.
John Baptiste Toussaint.
Oui, exactement. Merci. Allez.
Il enchaîne les jeux de mots.
Tu m'en mets deux comme ça, je vais picorer. Ouais. Non, vraiment, il est incroyable ce gars. Son histoire en plus est folle. C'est un bijou. Mettez-vous ça quand vous êtes un peu en bad, mais c'est bon.
Est-ce que t'as un titre en particulier?
Et après, vous mettez Tchernobyl pour revenir. Un titre en particulier? Oui.
Le dernier livre que tu as lu, Amaury?
Les Fureurs Invisibles du Cœur de John Boyne. Vraiment, c'est super. Ça retrace en fait la vie d'un gars. Ça retrace un peu toute sa vie. C'est un roman. Et c'est génial. Ça commence au début du 20e siècle. Et ça termine là dans les années fin 2000, vers 2008-2010, et c'est magnifique. Franchement, c'est très drôle, c'est dramatique à souhait, c'est poétique, et vraiment j'ai adoré. Je pensais que j'allais c'était une recommandation de ma copine qui m'a dit mais il faut absolument que tu lises ce livre, ça va changer ta vie.
Ça a changé ta vie ou pas?
Et vraiment, ça, je suis un autre homme.
Mais c'est à dire quoi? Maintenant, tu vis de la vaisselle, tu fais des trucs comme ça? En quoi ça a changé ta vie?
Alors,
l'accent africain, le lave-vaisselle.
J'étais plus à l'aise avec l'accent.
Où va-t-on?
c'est dur.
Tchernobyl, sinon.
Et donc, du coup, j'ai adoré la petite anecdote sur la valise. Du
alors, tiens, Quentin, toi, le dernier livre que t'as lu.
Écoute, le dernier livre que j'ai lu, c'est le bouquin d'Éric Zemmour. Non, pas du tout, pas du tout. Non, c'est Premier sang de Amélie Nothomb.
Très bien.
C'est la première fois que je découvrais.
Attends, tu dis Nothomb? Parce que c'est Nothomb, je crois.
Nothomb. Alors Amélie Nothomb.
Amélie Nothomb.
Et Silent. Non, pas du tout.
C'est comme Prout. C'est pareil, c'est comme Prout.
Amélie Nothomb.
Tu peux enlever le B.
Et c'est un bouquin qui parle de l'histoire de son père et c'est très très bien.
Très bien. La dernière BD que t'as lue?
Alors j'avoue que je lis très rarement des BD. Je pense que c'est plus un manga. Je sais pas. Alors
oui, mais
peut-être que vous allez me tracher en me disant attention, très différent.
Et le mangaka, mais qu'est-ce qui se passe?
Oui, parce que
mangaka.
Non mais attendez, je suis en train d'apprendre qu'il est.
C'est un mangaka.
Non, alors c'est un manga qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Un cousin qui est très fan de tout ce qui est culture japonaise et qui m'a offert un manga qui s'appelle Blue Giant. Sur un jeune ado lycéen qui se met au jazz, au saxo.
Ouais,
et tout.
Je sais pas pourquoi, j'ai cru que t'allais sortir Les Blondes. J'allais dire, mais non, c'est pas du tout un bouquin.
Non, mais
c'est un
jeu Martim.
C'est une BD.
Ouais, c'est pas vraiment mon gars.
C'est une BD. C'est un peu triste, ça. Alors.
Attends, mais ça a un peu épaté. Aurélien, t'as été épaté par la recommandation, apparemment.
J'ai lu ce truc.
Ouais,
j'ai lu énormément de choses, mais oui, j'ai trouvé ça.
Non, c'est assez cool. Ouais, c'est assez cool.
Ah mais le thème a l'air intéressant par contre.
Voilà.
Ouais.
Non, mais c'est cool. Traité un peu à la manière de quelqu'un qui comme s'il faisait du sport mais avec son saxo, il se donne à fond, le gars, il veut être le meilleur et
ouais.
C'est assez cool ouais comme
c'est comme les shonen un peu, tu sais, ils prennent vraiment n'importe quelle discipline maintenant et ils en font un délire comme si c'était la plus grosse compétition.
Esprit shonen
c'est en mode jazz.
Amaury, dernière BD ou manga que t'as lu?
La Bombe.
T'es pas un mangaka toi?
Je suis un mangaka en devenir. Non, La Bombe c'est vraiment. Ah la vache. Non, la bombe, très très bien. C'est sur l'histoire. C'est un bon pavé. Hein. C'est quand même. Les dessins sont fous. C'est l'histoire en fait sur la bombe Hiroshima. Comment ça s'est passé, la construction, tout ça. Et c'est l'histoire de deux gars en fait qui à la base vraiment voulaient faire le bien et un peu le projet leur a échappé et passé par les mains de l'armée et ça a mal très mal terminé. Toi, et c'est super.
Tu dirais que t'es un mec qui aime bien les bons moments, toi, non?
Je suis un
Tchernobyl, la bombe, ça va vous?
La bombe, ouais, c'est vrai. Bah quoi?
Un
bah,
album. Oh,
je vous rappelle,
le mec qui te peint.
Je vous rappelle qui est mon oncle, Vlad.
Allez,
donc voilà,
tout se recoupe.
Dans la famille, c'est comme ça que ça se passe en tout cas.
Intense.
Le dernier objet culturel que t'as acheté, Quentin.
Je pense que c'est un livre.
Ouais, ok.
C'est le dernier livre de Joël Dicker.
Très bien.
Qui s'appelle L'affaire Alaska sans. Je crois, il me semble.
Ouais, c'est ça.
Voilà, que j'ai aussi lu pendant les vacances, juste avant
le. Tu t'es demandé tout à l'heure le dernier livre que t'as lu ou pas?
Oui, c'était Amélie Nothomb, mais c'est celui que j'ai lu. J'en ai emmené deux en vacances, figure-toi, si tu veux tout savoir.
T'es un lecteur.
Ah, écoute, moi je bouffe de la page.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire.
Toi, tu lis des livres, t'es pas sur Insta, quoi.
Exactement.
Et bah oui, bah ça c'est beau. Amaury.
Le dernier livre, c'est un livre qui s'appelle Carou.
Non, pardon, c'est même pas ça en plus la question. C'est le dernier objet culturel.
Oui, mais justement, c'est un livre.
Ouais, toi aussi,
excellent.
Carou. C'est des intellos aussi. Non,
excuse-moi. Steve Tech.
Hein? Oui, exactement.
Excellent. Tech, incroyable. Très non, mais bien. Vraiment, un bijou, excellent. Tout simplement. C'est super. Ouais. J'adore. Pareil, humour noir. Très sympa. Ouais.
Très très bon.
Très très normal.
Et
très,
enfin,
très j'aimerais une adaptation d'ailleurs. J'adorerais avoir une adaptation.
Avec Gilles Lelouch.
Et exactement. Et François Cluzet. Non, mais apparemment, il y avait une époque Gérard Depardieu qui était sur le dos.
Ah, ça correspond bien.
Et ça correspond clairement. Enfin,
clairement,
le gars,
c'est
lui. Et apparemment, il n'a pas voulu parce que c'était le tournage était trop loin, apparemment.
Oh. Mais anecdote croustillante.
Oui. Semi-croustille.
Et enfin, la dernière artiste que tu as suivie sur les réseaux, Insta ou Twitter, Amaury.
Alors, c'est grâce à Anis que je suis ce gars. Il s'appelle Al Aramanis sur Instagram. Il s'appelle Al Takino. Il est, c'est un gars très cool. Il fait plein de vidéos. Comment dire, enfin, il essaye de réinventer un peu Insta, c'est-à-dire qu'il fait des petites vidéos scénarisées, hyper bien montées. Et en plus là, il a fait un podcast qui s'appelle Le Cockpit sur Spotify et tout ça, et qui est super. Et en plus, c'est ce qui est drôle. Donc, t'as l'histoire, le podcast, le cockpit, pardon, qui est cool. Mais en plus, t'as aussi l'histoire de l'histoire, c'est-à-dire qu'il raconte comment il a eu cette idée, qu'il l'a envoyé à Spotify, qu'il s'est fait jeter salement et qu'il a essayé d'accrocher une prod, que ça s'est pas passé, puis qu'il a quand même financé ce truc-là. Non, vraiment, il est brillant ce gars. Vraiment,
et toi, Quentin?
Et ben moi, je suis allé regarder. C'est la dernière personne que j'ai suivie, c'est un acteur qui s'appelle Dali Ben Salah. Mmh. Qui a notamment joué dans Les Sauvages et dans le dernier James Bond. Voilà, qui est un acteur français en devenir, est assez incroyable. Je pense qu'il va en entendre beaucoup. Enfin, on en a déjà parlé, mais je pense qu'on va.
Il est dans un clip incroyable.
Oui, il a été révélé par ce clip. Ouais,
si tu veux, c'est un gars donc qui retourne en Algérie. Tu comprends dans le clip que bah voilà, il a jamais mis les pieds, donc il voit un peu toute sa famille. Et il y a des plans fous. Et
ouais, il a gagné énormément de récompenses.
C'est ça.
J'ai oublié le nom du groupe.
À la fin,
The Blaze, non?
C'est ça.
Oui.
Merci Aurélien.
Oh là là, mais Aurélien, mais l'encyclopédie.
Est-ce que ce serait pas le dieu à. Il veut pas l'être, apparemment.
Si, mais bon. Et ouais, il est incroyable.
C'est fou.
Le dernier plan. Ouais. Fou.
C'est donc la fin de cet épisode. On va passer un bon moment. Bien évidemment, on vous conseille de voir ou de revoir nos coutumes pour le même. Mais avant ça, Amaury et Quentin, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre actu? Je vais commencer avec Amaury.
Eh ben écoutez, comme je l'ai dit en intro, j'ai un podcast qui s'appelle Futsal tous les mardis. Mais vous pouvez bien entendu le réécouter quand ça vous chante. Voilà.
Et j'ai eu le plaisir d'être invité. Oui, c'est le dernier, vrai. Et c'était très agréable.
Et tu as été très très fort au quiz.
Je suis
savoir que tu es un
phénoménal pour les quiz de foot.
Tu es un adversaire redoutable.
C'est vrai.
Ouais, parce qu'il y avait Quentin d'ailleurs.
Tout à fait.
Guillaume le sait. Guillaume sait que.
J'ai déjà vu une petite dédicace à la First Team.
Je les défonce en permanence.
Bah, ils disent que non, mais moi je crois
que. Non, c'est filmé.
Ils m'ont déjà dit que non.
Mais c'est filmé. C'est
déjà dit, ouais, c'est pas vraiment un expert. C'est énervant.
Pour le coup, j'ai dit parce que c'est filmé, c'est trouvable sur YouTube dans leur émission La Classe Foot. Je les défonce en direct. Donc là, ils peuvent rien dire, c'est filmé.
Ah, c'est vrai.
Et qu'est-ce qu'ils font en général? Ils se mettent à 5 contre moi en général. C'est ça qu'ils font. Ouais.
Ah, ce que je disais à Maurice, c'est que j'ai été honoré de perdre contre toi.
Ah, ouais. C'est beau, ça. C'est beau, ça.
C'était une belle défaite.
C'était une très belle défaite.
Quand t'as gagné, on t'a dit que t'étais un dieu ou pas?
Non, jamais.
Non, bah, moi je te le dis, t'es un dieu.
Oh, merci, c'est sympa. Oh. Ah, ça fait plaisir, ça. Merci.
Il y a beaucoup de dieux, ça va être le bordel
c'est
après.
Hein. Ici, là, c'est
je vais
bordel,
te faire un Lydia de 10 euros.
Ouais. Oublie, oublie, oublie. Tu vois que ta carte est muette.
Et donc, il y a le podcast.
Il y a le podcast. Il y a une série aussi que j'ai coécrit avec Quentin, qui, normalement, peut-être, si elle m'entend, qui devrait peut-être être chez OCS. Voilà.
Cool.
Une série. On a passé beaucoup de temps à bosser là-dessus. Voilà. Et j'ai un sketch show qui va normalement sortir en début d'été, qui s'appelle Vous n'êtes pas prêt.
Sur
la plateforme YouTube, pourquoi pas, et peut-être ailleurs, on sait jamais.
Très bien. Mm-hmm. Oh, yes. Et donc, toi, Quentin?
Écoute, déjà j'ai envie de dire à tous ceux peut-être qui n'ont pas vu toutes nos vidéos qui peuvent aller faire un tour sur notre chaîne YouTube Amaury et Quentin. Et effectivement, donc il y a cette série avec Amaury qui j'espère verra bientôt le jour et sortira de terre. Et puis on a aussi un film Nikon qu'on a fait pour le Nikon Film Festival qui est encore en compétition, vous pouvez aller voir sur la plateforme du Nikon et on est finaliste.
Les résultats.
C'est le 22 avril.
Il y a une diffusion, c'est ça au Grand Rex.
Il y a une diffusion au Grand Rex demain. Enfin,
parce que là, vous êtes dans les derniers.
14. Là, on est dans les 50. Ouais. On fait partie de la shortlist.
Bravo.
Sur 55, je crois, à la base.
Exactement.
Non,
il y en avait, il y en avait 1600 cette année.
Je dis ça parce que tu l'avais dit dans le podcast. Il y en avait 1600, c'est quand même pas mal.
1600. Bon, voilà. Donc le film s'appelle Sa mère.
Une comédie sociale,
histoire de deux flics.
Politique.
Une histoire de mallette.
Ça dénonce très très fort.
Non, non, je trouve.
Parce que le thème c'était le jeu, non, c'est pas ça?
C'était un rêve. Voilà.
Ok.
C'est vraiment le thème, tu peux tout
merci
faire.
Guillaume.
Exactement.
Voilà.
Si je peux apporter ma petite pierre.
Non, parce qu'on a, en fait, j'allais pas recycler ma vanne, mais quand on était dans le podcast, j'avais dit que c'était un film sur la vie d'Arnaud de sa mère.
Et d'ailleurs, la première fois, on t'a dit non. Donc là, on va te redire non. C'est ça que tu voulais entendre?
Moi, je trouvais ça pas mal.
Je trouve ça drôle de la refaire. Ouais, avec les mêmes gens.
Vous savez, j'avais dit ça. Non,
et surtout te la replacer encore.
Il est incroyable.
C'était déjà
incroyable.
Mais en même temps, hey, un film sur la bio d'un autre sa mère. J'essaie de forcer pour comprendre.
Et tu forces un peu le verrou là.
Ça serait, d'ailleurs, ça serait qui l'acteur? Parce que
Vincent Elbaz.
Vincent Elbaz.
Oh, ouais. Bien joué.
Ah, sosie là quand même.
Bah, non, moi, je mettrais Benoît Magimel pour une performance.
Alors, je dirais
un accent, tu veux dire?
Oui, voilà, exactement.
Je dirais Arnaud de sa mère, parce que qui voudrait.
Histoire qu'on l'a vu vraiment jamais, par exemple. En tout cas, histoire qu'ils te mettent un procès, quoi.
C'est ça.
Qui voudrait
diffamation.
À bientôt.
Et donc du coup, bah voilà, merci.
Et donc ton film Sa mère est encore
exactement. encore disponible.
Ok, c'est la fin de cet épisode. Comme je l'ai dit, on vous conseille de voir nos contenus pour le même. Et si vous cherchez des idées de films, vous avez toujours le précieux outil Cinématcher dispo sur le site de We Love Cinema. Merci à Ninon et Timothée qui ont contribué à réaliser cet épisode. Ils ont été magnifiques pour l'avoir.
Et à arbitrer surtout.
Ils ont arbitré.
Ils ont très bien arbitré d'ailleurs. J'ai trouvé vraiment, ils ont été impeccables.
Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines. Voilà, bye tout le monde.
Salut.
Merci beaucoup, salut.
Vous avez écouté We Love TFTC, un podcast de We Love Cinéma par BNP Paribas.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.